Bonsoir, entrons ensemble dans un temps du débat en direct, chacun de nos invités étant chacun chez soi et nous-mêmes depuis la maison de Radio France. À l'ordre du jour ce soir, crise, comment éviter le péril jeune? Dans les quelques enquêtes journalistiques publiées sur ce thème depuis le début du déconfinement, les jeunes étudiants ou apprentis témoignent des difficultés qu'ils ont à trouver aujourd'hui des stages ou des contrats quand l'économie peine à redémarrer. Et même quand ils ont enfin réussi à trouver un emploi, le plus facile à faire sauter, c'est moi, dit l'un d'entre eux, dans une de ces enquêtes, et bien entendu sous anonymat. Le gouvernement a récemment annoncé un plan pour l'apprentissage. Suffira-t-il? Quant aux étudiants, certains d'entre eux souffraient déjà durement avant la crise et ces difficultés ont encore été aggravées depuis. Si l'on en croit un article récent du Monde, le président de la République s'inquiéterait même de la situation de la jeunesse qu'il ne faut pas perdre selon lui. Que se passe-t-il pour cette génération qui espérait entrer rapidement dans la vie active? Et faut-il être aussi optimiste que le secrétaire d'État à la jeunesse, Gabriel Attal, qui affirmait récemment qu'il n'y aurait pas de génération sacrifiée dans cette post-crise? C'est ce que nous allons voir avec notre trois invités, Mélanie Luce, présidente de l'UNEF, étudiante en droit, Antoine Dulin, président de la commission insertion et jeunesse au Conseil économique, social et environnemental, et Aurélien Cadiou, président de l'Association nationale des apprentis de France. Bonsoir à tous les trois, bonsoir à vous Mélanie Luce.
Bonsoir.
Bonsoir à vous Aurélien Cadiou.
Bonsoir.
Et bonsoir à vous, Antoine Dulin.
Bonsoir, Emmanuel Laurentin.
Je vais commencer avec vous parce que il faut peut-être expliquer à nos auditeurs que cette question de la jeunesse est une question qui obsède tous les gouvernements depuis au moins les années 60 et peut-être même un peu plus avant. Et que à chaque fois qu'il y a une crise, eh bien, généralement, on s'inquiète du sort de cette jeunesse en France, qu'elle soit jeunesse étudiante ou jeunesse au travail. Et on se demande s'il faut mettre en place des mesures spécifiques, des plans, comme on a pu le faire quand on a créé les missions locales, les emplois jeunes, les emplois d'avenir, etc., etc. Toujours après un moment difficile pour l'économie française, Antoine Dulin.
Malheureusement, vous l'avez bien dit, on pense à une politique de jeunesse quand il y a des crises. Or, il y a un problème structurel sur le marché du travail et même sur l'organisation administrative de notre État, c'est que la jeunesse, c'est un peu l'angle mort de nos politiques publiques. On ne sait pas appréhender véritablement les 18-30 ans dans le paysage. J'avais fait une mission il y a quelques années pour le Premier ministre qui montrait qu'il y avait 238 critères d'âge dans notre réglementation pour définir ce que c'était des jeunes.
Et 238.
Parce que on peut les définir à 17, 238 critères d'âge.
Ouais. Ouais.
Parce que ça peut être 17 ans, 18 ans c'est l'âge de la majorité civile, à 20 ans c'est la fin des allocations familiales, 21 ans la fin du complément familial ou du contrat jeune majeur. Enfin bref, il y a une multiplicité de critères d'âge et on voit bien, et vous l'avez dit tout à l'heure, Emmanuel Macron là va s'inquiète et le gouvernement, à juste titre, hein, d'un risque d'implosion à l'intérieur de la jeunesse, parce que avec la crise économique et la crise sociale qui a déjà commencé pendant la période du Covid, ça va toucher et ça touche directement les jeunes, déjà des jeunes qui avant même la crise, il y avait déjà un jeune sur cinq qui vivait en situation de pauvreté. Mmh. Il y avait un taux de chômage des jeunes qui était déjà très haut, hein. On était à 18,9%, même s'il avait un peu baissé ces dernières années. Il était, c'est incomparable par rapport aux autres catégories de la population où le taux de chômage était de 8%, mmh. de 8,4%. Donc on voit bien que là, il y a un problème structurel de comment on arrive à insérer les jeunes dans le marché du travail. Les jeunes restent une variable d'ajustement et en période de crise, effectivement, ça explose.
Ce que vous voulez dire, c'est que en fait, les processus qui sont mis en œuvre pour pouvoir justement permettre aux jeunes de moins souffrir sont toujours après une crise et qu'il n'y a pas eu de politique construite depuis 30 ou 40 ans qui permettent justement de penser cette place de la jeunesse dans la société et la possibilité qu'elle puisse entrer moins difficilement, en particulier dans le marché du travail. C'est ce que vous voulez expliquer, Antoine Dulin.
Tout à fait. Un des exemples le plus frappant, c'est la question de considérer dans notre système de protection sociale les jeunes comme des enfants jusqu'à 25 ans. Et c'est ce qui se passe, c'est-à-dire on les considère majeurs civilement, mais mineurs socialement jusqu'à 25 ans. Et comment ça s'explique? Parce qu'on dit c'est aux familles d'aider les jeunes jusqu'à 25 ans avec les systèmes à la fois d'allocation familiale jusqu'à 20 ans et la demi-part fiscale quand ils sont en études, donc une réduction d'impôts jusqu'à 25 ans. Donc donc c'est aux familles de prendre en charge. Sauf que ce système-là, on l'a bien vu, si aujourd'hui il y a un jeune sur cinq qui vit sous le seuil de pauvreté, il ne fonctionne plus. Il fonctionne pour des familles qui ont l'argent, la possibilité d'aider les jeunes, mais pour des familles qui sont sans ressources ou avec des ressources modestes, c'est compliqué d'aider des jeunes entre 18 et 25 ans. Et ce système reproduit les inégalités familiales, les inégalités sociales, et malheureusement, année après année, on a une impossibilité de penser une politique de jeunesse qui effectivement soit inclusive, alors que les pays du Nord ont inventé depuis longtemps des systèmes qui permettent d'inclure les jeunes sans absolument remettre en cause des solidarités familiales, heureusement elles existent, mais qui permettent effectivement à chacun de s'émanciper. En France, on est encore en retard là-dessus, et effectivement, ça a un impact sur l'entrée sur le marché du travail, avec à chaque crise des nouvelles propositions. Certains proposent des SMIC réduits par rapport des SMIC à bas coût pour les jeunes, c'est-à-dire ils seraient moins chers sur le marché du travail, donc on pourrait réduire le salaire minimum. D'autres qui proposent, ce qu'on sans doute on va discuter pendant toute l'émission, des emplois aidés, etc. Mais voilà. Malheureusement, on a du mal à penser structurellement ces politiques de jeunesse.
Mélanie Luce, vous qui êtes présidente de l'UNEF, donc qui êtes, je ne crois pas me tromper, en dessous de 25 ans, justement, ces questions de ces allers-retours, pourrait-on dire, dont parle Antoine Dulin, d'un pouvoir qui ne sait pas ce qu'est un jeune, comment on doit pouvoir l'aider, et en particulier dans un contexte de crise comme celui que nous connaissons, c'est quelque chose auquel vous êtes confronté tous les jours en tant que présidente de votre syndicat étudiant.
Oui, bien sûr, effectivement, on tire exactement le même constat que ce qui a été détaillé tout à l'heure par Antoine Dulin, c'est-à-dire qu'en fait les jeunes sont aujourd'hui dans une zone de non-droit de la protection sociale. On constate ça pour l'ensemble des jeunes, alors avec des situations qui vont être différentes. Un jeune qui est sans emploi, sans formation, qui recherche donc un travail et qui n'a ni accès à l'allocation chômage, ni accès au RSA parce qu'il a moins de 25 ans, il a accès à rien du tout. Un étudiant de l'autre côté, il est censé avoir accès à des bourses, et nous le constat qu'on tire à l'UNEF, c'est que en fait, les bourses, elles sont accessibles à très peu de monde. En réalité, il y a 73% des étudiants qui n'y ont pas accès. Mmh. Et donc, quand on fait nos études, on est très peu nombreux à avoir des aides sociales qui sont suffisantes. Quand on en sort, on va certainement en parler aussi. Mmh. On sort avec un diplôme après avoir passé du temps justement à étudier. Mmh. Et là, maintenant, on se retrouve face à un monde du travail où il est très compliqué de trouver un emploi et où on n'a pas non plus de protection sociale.
Mais justement, vous êtes un bon endroit pour pouvoir regarder ce qui se passe depuis maintenant 4 mois dans cette situation des étudiants. Est-ce que vous avez vu la détresse augmenter? Est-ce que vous avez vu, on a déjà fait des émissions au temps du débat il y a quelques mois autour de justement de cette question des étudiants et de leur place dans la société, de leurs difficultés à vivre, de ceux qui devaient passer par des aides pour pouvoir continuer à se nourrir tranquillement, et encore tranquillement, c'est difficile pour eux. Tout cela, vous avez pu noter une augmentation de la détresse, ou est-ce que, au bout du compte, les processus familiaux ont servi à amortir cette difficulté à vivre?
Non, on fait le constat d'une explosion de la précarité étudiante là pendant la crise du Covid-19, mais ce constat, en fait, il remonte pas uniquement à la crise du coronavirus, c'est-à-dire que on a une précarité étudiante qui est également structurelle. Il y a une précarité des jeunes qui est structurelle, mais une précarité étudiante aussi plus spécifique qui est structurelle et qui avait déjà augmenté avant la crise. Et c'est aussi ça qui a fait que la crise a été d'autant plus difficile pour les étudiants, parce que on a nos APL qui ont été diminués par le gouvernement, que de l'autre côté, on avait des dépenses qui ont augmenté. Et là, pendant la crise, concrètement, on a fait face à une augmentation de nos dépenses, puisque les restaurants universitaires étaient fermés, et en même temps une baisse de nos revenus, puisque on est nombreux à avoir perdu notre
boulots.
Emploi. Voilà, et malheureusement, aujourd'hui, on a quand même un étudiant sur deux qui est salarié pour financer ses études.
Bien sûr.
Donc ça représente
Et parmi les 620 000 emplois qui ont été détruits pendant le confinement, beaucoup d'entre eux étaient des emplois précaires, intérimaires, etc. Et parmi ceux-ci, il y avait évidemment des étudiants et des étudiantes, Mélanie Luce.
Oui, c'est ça. En fait, concrètement, c'est des étudiants qui étaient soit en fin de contrat, soit dans des contrats précaires, qui ont été totalement licenciés ou qui ont vu leur contrat tout simplement être supprimé. Et puis, il y a aussi eu la question des stagiaires, puisque malheureusement, même si le stage, c'est un outil de formation aujourd'hui, on est dans une situation aussi tellement précaire que c'est aussi un outil pour les étudiants pour avoir de l'argent. Et la suspension des stages et la suppression des stages a aussi eu un impact fort.
Et là, on peut dire que tous les stages ont été suspendus ou ils ont été reportés à quelques mois, parce que il est possible aussi que certaines entreprises ou administrations aient considéré qu'il fallait déplacer la durée du stage un peu plus tard pour pouvoir permettre, par exemple, à ce que des stages de 6 mois soient faits un peu plus courts et néanmoins valident votre année universitaire, par exemple.
Oui, il y a des adaptations qui ont été trouvées et qui ont été cherchées. Par contre, ça n'a pas été le cas partout. Et donc, on peut pas dire que l'ensemble des stages ont été supprimés et l'ensemble des stages ont disparu. Non, par contre, on a constaté une tendance et nous, on a été contactés par des étudiants qui se sont retrouvés en ayant perdu leur stage, en ayant perdu parfois des stages qui étaient prévus donc à venir. Ils ne peuvent pas être indemnisés pour ça et qui avaient prévu de prendre un loyer qui correspondait aussi à la rémunération qu'ils devaient avoir et qui se sont retrouvés dans des situations très difficile. Et là, le problème de l'après, de ce qui arrive devant nous, c'est que ces difficultés, elles se sont pas en fait concentrées juste sur quelques mois. Elles vont s'étendre. Là, bien on sûr. Va arriver sur les vacances d'été. C'est un moment où nous, on cherche des jobs d'été pour financer nos études. Et ben, on le voit bien, les contrats saisonniers, ils sont de plus en plus, il y en a de moins en moins. Donc, on va avoir aussi des difficultés structurelles cette année. Et je suis totalement d'accord. On peut pas seulement attendre à ce qu'il y ait des réponses en temps de crise. Il faut qu'il y en ait tout au long de l'année, enfin tout au quotidien. Et surtout, nous, ce qu'on constate, c'est que la politique qui a été mise en œuvre par le gouvernement ces dernières années, elle a aggravé la situation parce qu'on a une précarité qui s'est augmentée.
Ouais, je vais donner la parole maintenant à Aurélien Cadiou. Je rappelle que vous êtes président de l'Association nationale des apprentis de France. Est-ce que pour les apprentis, la situation est très différente de celle qui vient d'être décrite à la fois par Antoine Dulin et par Mélanie Luce? On sait que le gouvernement avait, disons, voulu montrer un appui à l'apprentissage, c'était l'année dernière, et que justement cet apprentissage permettait d'avoir 16%, je crois, d'apprentis en plus l'année passée que l'année d'avant, et donc que c'était un fer de lance de ce gouvernement que de mettre l'accent sur l'apprentissage. Le gouvernement a fait des annonces récemment après le déconfinement. Est-ce que ces annonces, vous pouvez nous les présenter, Aurélien Cadiou, est-ce qu'elles satisfont votre Association nationale des apprentis de France comme étant de bonnes mesures d'amortissement de la crise pour les jeunes apprentis?
Alors déjà, effectivement, il y a une réforme qui est assez récente, qui date de 2018 et qui a été mise en œuvre de manière un peu étalée jusqu'au 1er janvier 2020. Donc une réforme qui s'est voulue assez grande sur l'apprentissage. Mais finalement, ce qui a été beaucoup remis en cause dans la avec la réforme, c'est le financement de l'apprentissage, donc la mécanique de financement d'apprentissage, et pas spécialement les conditions de vie des apprentis et les problématiques auxquelles ils pouvaient faire face. Et au contraire, j'entendais juste avant les problématiques, par exemple, de logement, qui est aussi présente pour les apprentis, qui sont et des étudiants et des salariés, qui ont donc les problématiques des étudiants et les problématiques des jeunes travailleurs. Sur les aides aux apprentis, la réforme fait moins que ce que pouvaient faire les régions avant quand elles avaient la compétence. Donc en fait, on a effectivement vu plus 16% d'apprentis, mais en face, on a des aides aux apprentis qui ont diminué avec des critères d'attribution qui sont plus stricts.
Et est-ce que les entreprises ont, disons, mis un terme, empêché, arrêté le recrutement justement d'apprentis pendant cette crise et à la suite? Est-ce que vous avez, vous aussi, des remontées du terrain qui vous disent, eh bien écoutez, ça devient difficile justement quand on est apprenti de trouver des entreprises qui veulent bien vous employer?
Oui, alors avant les annonces très récentes de la ministre du Travail, effectivement, nous, on a reçu beaucoup plus de demandes que d'habitude. On a reçu 5 fois plus de demandes sur SOS Apprenti que d'habitude.
Alors, il faut dire que vous avez un système, effectivement, qui s'appelle SOS Apprenti, qui est une plateforme sosapprenti.fr, c'est ça?
Oui, c'est ça, qui est un chat en ligne sur lequel les futurs apprentis et les apprentis peuvent nous contacter. Et on a été bombardés de questions depuis le début de la crise, autant des apprentis qui étaient déjà en poste, et un certain nombre qui étaient face à des employeurs qui voulaient rompre leur contrat. On n'a pas de chiffres précis, mais on a des réseaux de centres de formation qui ont fait des études auprès de leurs organismes de formation et qui nous disent avoir eu entre 10 et 15% de rupture de contrat pendant la période. Mmh. Donc, ce qui est un chiffre qui est très élevé. Et on a eu beaucoup de futurs apprentis qui nous ont contactés durant cette période-là, puisqu'effectivement, pendant la période de confinement, il y a une certaine partie des entreprises qui étaient fermées. Pour celles qui étaient ouvertes, les services de ressources humaines étaient plutôt focalisés sur le télétravail et éventuellement sur la phase de déconfinement et le respect des mesures sanitaires pour faire reprendre leurs salariés, plutôt que sur le recrutement d'apprentis. Donc beaucoup de jeunes, beaucoup de jeunes qui veulent être apprentis l'année prochaine n'ont pas de retour de leur candidature de la part des entreprises.
Ça représente 500 000 apprentis par an, c'est ça à peu près ?
On était arrivé là avec les plus 16% à 485 000 apprentis.
Et donc les mesures gouvernementales, très brièvement, quelles sont-elles et en quoi peuvent-elles aider justement à faire redémarrer cette dynamique de l'apprentissage sur laquelle comptait le gouvernement, justement pour que le chômage des jeunes soit moins important qu'il ne l'était auparavant ?
Alors les deux principales mesures qui ont été annoncées par Muriel Pénicaud la semaine dernière, la première c'est l'incitation financière pour les entreprises pour recruter des apprentis. Donc les entreprises pourront avoir une aide entre 5 000 et 8 000 euros en fonction de si elles recrutent un apprenti mineur ou majeur pour tous les recrutements jusqu'à fin février. Donc c'est l'incitation financière, je pense qu'elle était nécessaire. Là elle est conséquente. Et quand on a une incitation financière qui est aussi conséquente et qui réduit quasiment à zéro le coût d'un apprenti pour les employeurs par mois, on est à 150 euros par mois pour un apprenti, je pense qu'il faut mettre en face des mesures pour assurer la qualité de l'apprentissage. Puisque déjà avant, on avait des problématiques avec des entreprises qui ne considéraient pas spécialement comme il fallait leurs apprentis, qui ne les considéraient pas comme un autre salarié, du fait peut-être notamment que ça coûtait beaucoup moins cher qu'un salarié traditionnel.
Vous voulez dire que comme il n'y avait pas de sacrifice financier de l'entreprise pour pouvoir justement prendre les apprentis, au bout du compte, eh bien, ils ne faisaient pas leur travail de formation tel que l'apprenti pouvait l'espérer, c'est ça ?
Oui, et puis on voit aussi, alors ça effectivement, il y a des entreprises qui ne s'intéressent pas à la formation de leur apprenti, qui s'intéressent aux missions qu'ils leur confient, mais l'apprenti est aussi dans une phase de formation dans laquelle il faut l'accompagner. Et on voit aussi que les recrutements d'apprentis se font de manière beaucoup plus légère que quand une entreprise recrute quelqu'un en CDI. C'est-à-dire que l'entreprise, dans la majorité des cas, ne voit qu'un candidat pour l'apprentissage et le recrute tout de suite. Ce qui fait que, du coup, n'ayant pas ce processus de sélection, il y a des ruptures de contrat qui sont très fréquentes. On a 28% de ruptures prématurées de contrat en apprentissage, ce qui est un chiffre qui me paraît énorme pour des jeunes qui commencent dans le monde du travail.
Bien sûr.
C'est pas une bonne image qui est donnée aux jeunes. Et le risque, c'est que ça s'aggrave avec le fait que maintenant, un apprenti, pour la plupart des entreprises, ça va coûter une centaine d'euros par mois. Le risque, c'est que les entreprises se jettent dessus, ce qui serait une très bonne nouvelle pour le nombre d'apprentis et pour les jeunes qui ont besoin et envie de se former par apprentissage. Mais ce qui pourrait être une mauvaise nouvelle pour la qualité de l'apprentissage, si justement on ne met pas de mesures pour s'assurer que l'entreprise accompagne bien les apprentis. Et une mesure simple à prendre, c'est par exemple d'obliger l'entreprise à former le maître d'apprentissage pendant 3 ou 4 jours sur justement comment fonctionne l'apprentissage et comment bien accompagner un apprenti.
Antoine Dulin, quand on prend ces exemples, on aurait pu y ajouter la question des jeunes qui sont sans abri, qui sont de plus en plus nombreux, on aurait pu y ajouter d'autres cas d'espèces. On s'aperçoit effectivement que c'est une question de politique globale. Quand vous disiez tout à l'heure, eh bien, il faudrait une politique globale de la jeunesse et pas simplement une politique sectorielle. On voit que, par exemple, l'apprentissage a donné lieu à un focus de la part du gouvernement très récemment, la semaine dernière, Muriel Pénicaud, que les étudiants attendent encore des dispositions de leur côté, que les jeunes stagiaires qui attendent un stage également. Tout cela, ça nécessiterait quoi exactement ? Que le secrétariat d'État à la jeunesse se mobilise pour l'ensemble de ces cas parce que ce sont des jeunes ?
Ça nécessite effectivement le secrétariat d'État. Il essaye de faire ce qu'il peut ou ce qu'il avec différents une administration qui est un peu organisée aussi en silo entre l'emploi, entre le logement, etc. Ce qu'il faut, c'est une véritable politique interministérielle, c'est-à-dire avoir un vrai portage du Premier ministre, voire quand il s'agit d'annonces du président de la République. Peut-être que dimanche
il y en aura
cette envie-là. Voilà. Le secrétaire d'État Gabriel Attal a annoncé qu'il y aurait un plan global pour les jeunes à la mi-juillet.
C'est ça.
Bon, on n'a pas plus d'informations, il n'y a pas plus de concertation aujourd'hui au niveau de l'État avec les différentes organisations, si ce n'est en bilatéral, et que je pense que sur ce sujet-là, comme on a pu instaurer un Ségur de la santé actuellement pour retravailler notre système de santé, il serait intéressant qu'on organise pourquoi pas un Grenelle sur les questions de jeunesse, d'insertion des jeunes, et que on puisse lever toutes les barrières. Ça a été très flagrant pendant la crise. Au moment de la crise, et Mélanie Luce l'a bien expliqué, les jeunes ont été encore plus confrontés à la question de la précarité. Moi, je suis à Lyon, il y a une association qui a distribué des colis alimentaires pour les étudiants, qui le faisait déjà avant la crise, et pendant la crise, 95% des étudiants qui sont venus n'étaient pas connus des services de l'épicerie sociale et solidaire. Donc on a bien vu là une explosion de cette précarité avec de nouveaux publics, de nouvelles personnes qui effectivement n'arrivaient plus à boucler les fins de mois, ne serait-ce qu'aussi à se nourrir à la fin de la semaine, etc. Et on a eu ce même effet du côté des dans d'autres générations, dans d'autres classes d'âge, avec les problématiques qu'on a vues dans les quartiers populaires, etc. Le gouvernement a pris une mesure sur les personnes bénéficiaires du RSA en disant il va y avoir 150 € de plus pour les bénéficiaires du RSA. Malheureusement, et on l'avait averti avant et on l'a averti juste après, rien pour les jeunes. Il a fallu trois semaines ensuite.
Oui, il y aura 200 euros
pour mesure pour les jeunes qui a été 200 euros, voilà, qui ne va être versé que maintenant, donc c'est-à-dire 3 mois après le début de la crise. Et encore une fois, on fait par silo, c'est-à-dire qu'on est allé chercher les étudiants qui avaient perdu un emploi, donc ils doivent faire une déclaration sur une plateforme du CROUS. Et puis pour les autres jeunes qui sont ni en emploi ni en formation, on passe par le système des allocations logement. Sauf qu'en fait, il y a plein de jeunes, notamment, vous l'avez parlé, des jeunes qui sont à la rue, des jeunes qui sont hébergés chez des tiers, des jeunes qui sont dans des centres d'hébergement d'urgence, ou des jeunes qui vivent dans des familles modestes, qui n'ont pas de logement autonome, donc qui n'ont pas ces APL. Donc, ils ne bénéficieront pas de cette aide de 200 euros, alors que c'est sans doute les premiers à avoir subi la question de la précarité. Et donc, oui, il faut absolument remettre tout à plat, à la fois, alors ça prendra du temps, mais au moins qu'on aille dans cette dynamique-là, à la fois il va falloir des mesures d'urgence pour l'emploi, on l'a vu sur l'apprentissage, mais on ne peut pas que se focaliser sur la question de l'apprentissage, et j'espère que dans les prochaines semaines, on va avoir des mesures sur les questions notamment d'emploi aidé pour les jeunes. Ça a marché dans les problématiques de crise, c'est-à-dire moi je pense qu'il faut créer jusqu'à 200 000 emplois aidés spécifiques pour les jeunes sur des métiers liés à l'utilité sociale, à l'intérêt général et à la transition écologique. Il va falloir aussi revoir les règles des allocations chômage. Au 1er novembre, on est passé de 4 mois de cotisation à 6 mois de cotisation pour pouvoir percevoir les allocations chômage. Et ben, ça a un impact énorme sur les jeunes. Avant la crise, l'UNEDIC l'estimait à 30% des jeunes qui seraient impactés par cette mesure. Aujourd'hui, on va avoir beaucoup de jeunes qui vont effectivement être dans une situation de précarité, sans ressources, sans filet de sécurité. Et là, on a besoin effectivement de travailler avec l'ensemble des acteurs.
On continue ce débat consacré au péril jeune, au péril pour les jeunes de cette crise et de la post-crise avec Mélanie Luce, avec Aurélien Cadiou et avec vous Antoine Dulin que nous venons d'entendre. Mais une petite pause, on écoute Dominica.
France Culture, le temps du débat, Emmanuel Laurentin.
Je revenais du travail, personne ne m'attendait. J'abandonnais mon travail et quelqu'un survenait. Je reprenais mon travail, ce quelqu'un s'ennuyait. Je revenais du travail et seul me retrouvais. Je revenais du travail, personne ne m'attendait. J'abandonnais mon travail et quelqu'un survenait. Je reprenais mon travail, ce quelqu'un s'emportait. Je revenais du travail et seul me retrouvais. On m'enlevait mon travail, plus seul je me sentais. Je recherchais le travail là, plus tout seul j'étais. cherchais du travail, où je suis, il faisait. Je renonçais au travail, qui alors m'ignorait.
Le travail de Dominique 1 dans cette émission du Temps du Débat consacrée au péril jeune. Mélanie Luce, quand on entend le président de la République, d'après évidemment des propos de couloir rapportés dans Le Monde, dire qu'il ne faut pas perdre la jeunesse, est-ce qu'il y a justement un risque que, eh bien, il y ait, entre guillemets, une sécession de la jeunesse dans cette après-crise?
Une sécession, Alors, enfin, la question, c'est qu'est-ce qu'on veut dire par sécession, mais en tout
non,
cas,
mais c'est vu du point de vue du gouvernement. Donc, ce qu'entend ce président, c'est de se dire, il faut donc protéger tous les enfants de la République, dit-il dans ces propos rapportés, comme on dit généralement en termes de presse. Et puis, évidemment, il enchaîne sur la question de l'idéal de la lutte contre le racisme et une attaque contre le monde universitaire qui a été coupable et a encouragé l'ethnicisation de la question sociale en pensant que c'était un bon filon, dit-il. Dans ces propos rapportés, il y a cette idée quand même que la jeunesse pourrait être tellement en difficulté qu'elle pourrait donc partir de son côté.
Oui, mais en fait, il y a une fracture générationnelle qui est de plus en plus forte. Et on l'a vu d'ailleurs quand au moment de la mobilisation sur la question des retraites. C'est-à-dire que on a un gouvernement qui a encore une fois pris en excuse les jeunes pour faire une réforme sur son dos, qui a été largement contestée. Là, aujourd'hui, on a des jeunes qui font face à un taux de chômage qui explose, puisque Antoine Dulin donnait au début de l'émission les chiffres avant la crise. Là, les chiffres qu'on a eus, quand même, c'est plus de 29% d'augmentation du nombre de jeunes qui se sont déclarés à Pôle emploi, donc c'est particulièrement important. Donc il y a une inquiétude sur l'avenir, une inquiétude sur effectivement les questions des discriminations et la question du racisme qui prend de plus en plus de place. Et puis il y a aussi des questions qui concernent l'avenir en termes d'études, par exemple, puisqu'on a de moins en moins de jeunes qui aujourd'hui ont le choix de, enfin, qui peuvent réellement choisir leurs études, puisque maintenant on a une sélection qui s'instaure. Et à tout ça se rajoute l'inquiétude écologique. Donc en fait, nous on considère que dans tous ces éléments-là, il y a quand même un fil qui ressort, c'est l'inquiétude pour l'avenir. On a des jeunes qui s'inquiètent de plus en plus, qui ont l'impression en plus de ne pas être soutenus, de ne pas être la priorité. Et quand on entend qu'on doit attendre 2 mois pendant une crise avant d'entendre un seul mot sur la question des jeunes, forcément que ça renforce les choses. Et donc là, les jeunes, ce qu'ils attendent, c'est pas uniquement de l'incantatoire, pas seulement des expressions du style « il faut pas que les jeunes fassent sécession », mais des actes concrets. Concrètement, ça pourrait être quoi? L'accès, par exemple, des jeunes de moins de 25 ans au RSA. Ça, ce serait un pas qui serait fait pour justement résorber le trou de la protection sociale dont on parle depuis tout à l'heure. Les questions sociales, mais il y a plein d'autres sujets, bien sûr.
On aurait bien voulu, effectivement, que vous puissiez en discuter autour de ce micro avec le secrétaire d'État, Gabriel Attal, mais on l'avait invité, il ne pouvait pas venir pour ce débat dans le temps du débat aujourd'hui. Aurélien Cadiou, y aurait-il eu quelque chose de bénéfique dans ce confinement pour les jeunes que vous représentez avec l'Association nationale des apprentis de France, ou au contraire rien du tout? Certains ont dit, tout compte fait, l'expérience des entretiens à distance a pu être positif. Certains ont dit l'apprentissage des nouveaux médias interactifs que sont toutes ces plateformes sur lesquelles on a été obligé de se connecter, ça fait partie aussi d'un moyen de formation un peu à l'arrache, comme on dit, mais néanmoins, ça a pu se faire. Qu'est-ce que vous en pensez, Aurélien Cadiou?
Je ne sais pas si vraiment ça a pu être bénéfique pour les apprentis. Peut-être qu'on en saura plus dans quelques mois, mais pour l'instant, je ne pense pas que ça a pu être bénéfique. Le seul bénéfice qu'on a pu avoir, c'est peut-être pour les centres de formation. Ça a un peu accéléré la digitalisation de leurs cours et la numérisation de leur formation. C'est peut-être le seul bénéfice qui pourra
perdurer
et qui sera au bénéfice de nombreux jeunes qui sont quand même en attente de pouvoir faire une partie de leur formation par apprentissage à distance. D'autant plus que quand on fait de l'apprentissage, on a peut-être besoin d'avoir une entreprise qui est très loin de son centre de formation et donc d'avoir 2 logements. Et peut-être que cette solution-là permettrait aux jeunes d'éviter d'avoir 2 logements et d'avoir des solutions plus temporaires et d'aller au centre de formation uniquement quand c'est strictement nécessaire.
Et au tout début du confinement, on a vu des intellectuels, des penseurs qui disaient « nous craignons la guerre des générations », on a bien vu que les jeunes ont été, c'est du moins comme ça qu'ils le voyaient, hein, ça n'est pas la réalité, mais ils ont été moins intéressés par cette question de la Covid, ils ont été plus légers dans leur comportement, etc. Il y a eu des accusations faites à cette jeunesse de s'en ficher un peu de ce qui se passait. Évidemment, on s'est rendu compte que ça n'était pas le cas pendant le confinement, mais est-ce que vous pensez que justement ça joue sur cette, image un peu brouillée de la place de cette jeunesse dans notre société, Aurélien Cadiou, puis ensuite Antoine Dulin et Mélanie Luce sur cette question?
Je suis pas sûr. Nous, les apprentis, ont pris conscience assez rapidement, puisque du jour au lendemain, ils se sont retrouvés sans centre de formation et pour la plupart sans entreprise.
C'est sûr que c'était brutal.
Donc, je pense que ça a été très brutal pour eux. Je pense qu'ils se sont bien rendus compte très rapidement qu'il y avait quelque chose de grave quand même dans la crise qu'on allait traverser. Donc, je pense en tout cas au niveau des apprentis ils ont vraiment compris que la situation était grave et je pense pas qu'ils l'aient pris avec une certaine légèreté.
Antoine Dulin.
Moi, je rejoins ce que les propos d'Aurélien. C'est sûr que on le sait, y compris sanitairement parlant, la Covid a touché moins les jeunes, ou en tout cas avec moins d'impact de gravité en matière de santé. Après qu'il y ait eu des relâchements, les relâchements qu'on a pu voir, ils sont plus dus à des problématiques liées à on est 4, 5, 6 dans un petit logement, c'est compliqué de vivre tous ensemble, et donc effectivement, parfois il était peut-être allé un peu plus simple d'être de sortir dehors, mais en soi il n'y a pas eu plus qu'avant de jeunes, y compris autrement.
Donc c'est un fantasme journalistique. Même... pourrait-on dire la question de la guerre de génération
ou
de la
création journalistique d'une... J'en sais rien. Je pense que s'il n'y a pas une question de génération à mon avis sur ce sujet-là. En revanche, que je note aujourd'hui et avec intérêt, c'est que après cette crise sanitaire qui a touché effectivement des générations plus âgées, on voit bien que la crise économique et sociale, elle va toucher les 700 000 jeunes qui vont rentrer sur le marché du travail. Mais il faut pas oublier les 1,8 million de jeunes qui sont aujourd'hui avant la crise ni en emploi ni en formation et qui avaient déjà du mal à rentrer sur le marché du travail et donc vont avoir encore plus de difficultés. Et puis elle a accru aussi des difficultés en matière scolaire, donc avec un nombre qui risque d'être croissant de décrocheurs scolaires, hein. On en avait entre 60 000 et 80 000 par an. Là on risque encore une fois de battre peut-être 100 000, 120 000 décrocheurs scolaires. Et on sait que combien le diplôme reste encore une protection sur le marché du travail. Hein. Avant la crise, c'était un différentiel. Une personne diplômée avait 5 fois moins de risques d'être au chômage qu'une personne non qualifiée. Donc le diplôme protège encore dans notre société. Mais là, on va avoir des phénomènes de déclassement et des risques d'insertion plus longs sur le marché du travail, y compris pour les diplômés. Hein. Oui. En 2018, 31% des diplômés avaient un contrat de travail qui n'était pas pérenne, c'est-à-dire soit un intérim, soit un CDD de moins d'un an. Donc avec ça, c'est aussi empêcher de pouvoir avoir un logement, construire un projet de vie, etc. Quand on n'est pas stabilisé, on peut difficilement aussi s'intégrer pleinement dans la société.
Mélanie Luce, est-ce que on peut compter sur d'autres collectivités que l'État? On a vu récemment que le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté annonçait la mise en place d'un fonds d'urgence contre la précarité étudiante, en passant par, je crois, le CROUS de 270 000 euros. C'est-à-dire, est-ce qu'il y aura d'autres acteurs que l'État, justement, pour pouvoir aider à passer ce cap qui risque d'être long pour les étudiants, les étudiantes?
Les collectivités territoriales ont leur rôle à jouer dans la période, c'est certain. Mais sur la question de la précarité étudiante, ne serait-ce que mettre en place l'encadrement des loyers dans les villes, limiter le coût des transports en commun, ça c'est des choses qui déjà permettent d'aider les jeunes. Mais le problème c'est que des actions seulement au niveau local sur certaines collectivités territoriales ne résoudra pas le problème global. Et c'est pour ça qu'on a besoin de prise de décision au niveau national et qu'il y ait une politique d'ampleur qui soient mises en place par le gouvernement. Et effectivement, on annonce un plan global concernant les jeunes. Il faut que ce plan-là, il soit ambitieux et qu'il permette réellement de sortir les jeunes de la précarité et de la situation actuelle. Et moi, je vais rejoindre un peu ce qui a été dit. Je trouve que le discours ambiant d'infantilisation des jeunes, qui est de dire que soit on n'aurait pas compris l'enjeu de la maladie du Covid-19, de la pandémie, soit qu'on n'aurait pas compris, si on revient sur la question du racisme dont vous parliez tout à l'heure, on n'aurait pas compris que c'est pas pareil la France et les États-Unis. Enfin, c'est un climat qui ne fait que aggraver aussi le sentiment des jeunes d'être dans une situation de fracture générationnelle. Et nous, on pense que on n'a pas intérêt à aggraver cette fracture. Au contraire, il faut que nos dirigeants, que les pouvoirs publics entendent la jeunesse et enfin mettre en place des politiques en leur direction.
En tant que présidente de l'UNEF, vous avez l'impression d'être écoutée ou entendue, justement, soit pendant la crise, soit maintenant dans cette sortie de crise? Est-ce qu'on a fait appel à vous? Est-ce qu'on vous a convoqué? On vous a demandé de venir quelque part dans un ministère, quel qu'il soit d'ailleurs, pour pouvoir dire ce que vous aviez à dire et faire remonter justement ces envies et ces craintes justement de mise de côté de la jeunesse?
Il y a pu avoir des échanges pendant la crise du coronavirus avec les différents ministères. Par contre, on est loin d'un réel dialogue social avec les organisations étudiantes. Et là, par exemple, on découvre par voie de presse la mise en place d'un plan sur la question des jeunes. Donc effectivement, des concertations en bilatéral, comme ça a été évoqué, ça ne suffit pas. Et pour nous, il faudra que ce plan il soit construit avec les jeunes si on veut réellement qu'il serve. Et c'est certain que ce soit pendant la crise ou avant la crise, pour nous, on n'a pas été assez écouté, et l'aide qui a été mise en place, dont on parlait tout à l'heure de 200 euros, c'est le meilleur exemple. C'est-à-dire que c'est une aide qui est arrivée trop tardivement, alors que nous, on l'a demandé depuis la première semaine du confinement. Mmh. C'est une aide qui était trop basse, parce que quand on a perdu son contrat de travail pendant 3 mois, on nous donne 200 euros, ça ne compense pas du tout ce qui a été perdu. Et c'est sur un temps bien trop court, puisque c'est sur 1 mois en une seule fois, alors qu'on a une précarité là qui va s'installer sur le long terme. Et nous, on s'inquiète fortement sur la situation des jeunes. Là, au-delà de juste dire, donc j'entendais Muriel Pénicaud dire que les jeunes ne devaient pas payer la crise, ne devaient pas être la variable d'ajustement, au-delà de l'incantatoire, là maintenant on veut du concret, et ça passe à la fois par arrêter d'infantiliser les jeunes, mais aussi par mettre en place la question de l'accès du RSA aux moins de 25 ans, la remise en place de l'aide à la recherche au premier emploi, qui a été supprimé par le gouvernement en 2019, qui permet donc de nous aider financièrement quand on vient juste d'être diplômé. Et ça passe aussi par une revalorisation des bourses, une augmentation du nombre de boursiers pour pouvoir aussi répondre à la précarité étudiante.
Merci en tous les cas à tous les trois. Merci à vous, Mélanie Luce, présidente de l'UNEF et étudiante en droit. Et on suivra effectivement sur France Culture la suite de ces histoires liées justement au rapport entre le gouvernement et la jeunesse, ne serait-ce que pour les manifestations qui rassemblent beaucoup de jeunes dans les jours qui viennent, on l'imagine encore, mais également pour le mois de juillet avec ces décisions attendues, donc des annonces gouvernementales autour d'une aide peut-être plus globale qu'elle ne l'était jusqu'alors à la jeunesse. Merci à vous, Antoine Dulin. Je rappelle que vous êtes président de la commission insertion et jeunesse au Conseil économique, social et environnemental. Et merci à vous, Aurélien Cadiou, président de l'Association nationale des apprentis de France. C'était le Temps du Débat et l'équipe du Temps du Débat, c'est Chloé Cambrelin, Hugo Boursier, Fanny Richer, Rémi Baille et Manon Prissé à la technique aujourd'hui, Anthony Thomasson à la réalisation, Perret Legras. Je vous conseille, si vous le voulez, d'aller sur le site internet de France Culture où l'équipe du Temps du Débat vous prépare tous les jours un texte qui a été écrit par un intellectuel, par un écrivain, par un artiste du monde entier autour de la crise que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Il s'agit du réalisateur argentin Juan Solanas qui nous explique que dans son texte que l'Argentine n'a pas le luxe de réfléchir au monde d'après, c'est du moins ce qu'il explique, parce qu'il y a 40% des Argentins qui sont en dessous du seuil de pauvreté, dit-il. C'est le texte de Juan Solanas sur le site de France Culture à la page La Conversation mondiale.